Bon, disons qu'il y a quelques semaines, puis même, je dirais, il y a 10 jours, la bourse se faisait pas mal secouer. Hein? C'était assez spectaculaire. Mais disons que cette semaine, ça a repris du tonus.
Ça a pris pas mal. Et pourquoi? On dit aux États-Unis qu'il y a eu 6,7 milliards d'injections de nouveaux placements. Et donc, c'est comme dans le marché immobilier, quand il y a des gens qui sont prêts à acheter, parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle en anglais « buy the dip », donc ils veulent acheter la chute ou acheter la trompette. Et donc, après le variant Omicron, ben ça amène qu'il y a des gens qui ont l'intérêt pour le placement et donc on achète les titres plus chers. Et avec les hedge funds, les investisseurs institutionnels puis les particuliers, ça fait monter la bourse. Puis où sont allés les investisseurs? Ben hier, si on regarde les résultats, dans les technos principalement, mais dans 8 des 11 secteurs du S&P 500, mais quand vous regardez le Nasdaq, par exemple, vous dites, mon Dieu, tu sais, il y a eu, oui, en novembre, il y a eu cette hausse et cette baisse, mais hier, on a pris 3%, donc ça va bien. Puis depuis le début de l'année, vous dépassez le 20% avec des placements indiciels. C'est quand même fou, là. Si on va au niveau du 8 novembre, on était quand même haut au niveau du TSX, mais là, on est rendu à des niveaux qui sont quand même intéressants par rapport au début de l'année. Et donc, les investisseurs qui ont une petite déprime en novembre, se retrouve quand même avec, au Canada, sur l'indice TSX, avec 17% de rendement depuis le début de l'année. Ce qui est quand même pas mal. On l'oublie, mais 17% de rendement sur un indice, là, pas sur un titre, sur un portefeuille équilibré de l'indice, c'est quand même spectaculaire. Et on voit beaucoup de choses spectaculaires sur des titres individuels, sur de la crypto-monnaie, sur de l'immobilier, mais de voir de l'indice boursier te donner un rendement qui te permet de bien dormir, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je donne tout le temps cet exemple-là pour dire à quel point c'est ridicule. La Banque Royale, une banque là, qui a un ratio co-bénéfice de moins de 12, c'est-à-dire que tu payes les actions le juste prix, qui donne en plus un rendement de dividende de 3,7% par année, ben imagine-toi donc que ton action était à 104$ au début de l'année, là, elle est à 130$. Donc, tu as quand même fait 24-25% depuis le 1er janvier en investissant dans des banques. Donc, la grande leçon, c'est que quand tu investis tranquillement, à un moment donné, tu finis par être payé. Et l'investisseur, il a beau se pincer, malgré les problèmes mondiaux, malgré la pandémie, malgré l'aide gouvernementale, la baisse des taux d'intérêt a aidé évidemment à amener des investisseurs en bourse, mais au total, il y a cette espèce de réalité que si tu investis chaque mois, à un moment donné, tu vas gagner. Puis quand il y aura une correction ou une chute, tu diras, c'est pas grave, c'est du gain que j'ai fait que je méritais pas, entre guillemets, parce que je n'étais pas habitué de le faire.
Parlons du dossier Desjardins. Oui. On en sait un peu plus. Là, le gars avait des cartes prépayées, mm-hmm. Il avait de l'argent comptant. Hein, puis finalement, il aurait avoué à son employeur ce qu'il avait fait.
Et Paul, le suspect, il y a deux choses que ça amène de très intéressant. Le premier élément, c'est la détresse humaine. Le crime t'attire quand t'as des problèmes. Tu travailles pas dans des études universitaires puis travailles chez Desjardins parce que t'as l'idée originale de frauder. Il dit « j'avais des problèmes financiers personnels liés à une autre relation ». Et donc, le crime organisé se tient autour des gens, des institutions, et les cherche. Donc, quand quelqu'un montre une faiblesse et démontre de l'intérêt à vendre des informations, le crime est pas loin. D'ailleurs, quand tu rentres dans une institution financière, une chose qu'on fait, c'est te faire un test de crédit. Pourquoi? On veut vérifier si tu as des problèmes financiers. Parce que si tu as des problèmes financiers, il y a plus de chances que tu sois tenté. Puis quand on regarde, le résultat, ce qui est tristement ridicule, c'est de perdre ta réputation pour si peu d'argent. Parce que la valeur de sa carrière sur 25-30 ans est beaucoup plus grande que les quelques dizaines de milliers de dollars qu'il a pu faire avec ce stratagème-là. Et la question, c'est pourquoi il y avait de l'argent cash et des cartes cadeaux? Ben, c'est intéressant, c'est le deuxième point. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut vivre en parallèle en étant un peu plus inventif. Oublions l'argent en cash parce qu'éventuellement, ça va devenir louche un beau-frère qui a 30 000 en dessous de son matelas. Mais des cartes de crédit prépayées, des cartes cadeaux dans des restaurants, des cartes cadeaux dans des magasins d'électronique, mais surtout des cartes cadeaux à l'épicerie au Costco, ça va devenir une monnaie d'échange de plus en plus intéressante pour les gens qui veulent vivre en parallèle du système. Je te donne un exemple. T'as un gars de construction qui va venir chez vous, va te dire « Donne-moi 3 000 avec une facture, puis 3 000 avec des cartes Costco. » Donc, la personne va chez Costco, elle peut acheter son épicerie, ses outils, plein de choses, des bijoux, une carte, même une bague de fiançailles chez Costco. Et présentement, contrairement au système bancaire, il n'y a personne qui te flague, hein? Si tu arrives à la caisse de Costco et tu achètes pour 3 000$ d'épicerie avec des cartes cadeaux, puis tu te dis, ben, si tu as des points avec ma carte de crédit, il n'y a personne qui va sourciller. Il n'y a personne qui va faire le calcul pour dire, hey, ça n'en prend des points sur une carte de crédit pour payer ça. Et donc, il y a une possibilité que la fraude fiscale maintenant passe par des cartes cadeaux.
Mais moi, ce qui me frappe dans l'affaire de Desjardins, là, je comprends la détresse humaine, là, mais c'est que un gars a réussi à faire ça, autant de données, que deuxièmement, ceux pour qui il faisait ça, ou en tout cas qui l'ont acheté éventuellement, là, on ne parle pas là, d'un réseau structuré, là, tu comprends? On parle de courtiers en prêt hypothécaire. Puis
Entre autres.
Ça fait ticasse pas un peu avec les cartes prépayées de main. Tu te dis, mais comment ces petits casques-là, un, ont été capables de siphonner autant d'infos chez Desjardins, puis que deux, on n'a pas accusé grand monde, là, puis pas dire personne la date.
En même temps, aujourd'hui, dans les réseaux parallèles, mettons, même les réseaux d'affaires, tu sais, le courtier avec le gars qui travaille chez Desjardins, le gars qui travaille dans une banque, tu sais, finissent par se connaître. Puis là, demander à un gars, il dit, hey, toi, si tu avais une liste de clients, tu connaissais les échéances, ça t'intéresserait-tu? Je pourrais peut-être t'en envoyer. Au moins, tu me chargeais combien? Ben, tant de piastres par nom. Là, puis là, il fait un petit essai. Puis là, personne ne se fait poigner. On fait un autre essai. Hop, personne ne se fait poigner. Et donc, mais t'as raison. Excuse-moi, dans le bon français, c'est une petite crossette qui est devenue une grosse affaire.
Ben, Mazan, écoute, la totalité presque des infos sur les membres de Desjardins, le gars était capable non seulement de les voir, mais de les copier.
C'est comme si tu rentrais chez Fort Knox, tu partais avec tout l'or, puis t'avais pas de char. C'est à peu près ça.
Salut. Il est à 7h23. Un survol des ponts de la Rive-Sud.